Salut, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer l'épisode du jour, pour vous dire simplement que vous avez accès exceptionnellement actuellement, en description de chacun de mes épisodes, c'est le dernier lien en description, à une vidéo de 43 minutes, dans laquelle je présente chaque étape de ma routine matinale. Une routine spécialement conçue pour augmenter vos niveaux d'énergie, de concentration et de motivation, dès les premières minutes de votre journée, afin d'augmenter de façon naturelle vos niveaux de productivité pour le reste de la journée. Donc si vous souhaitez découvrir concrètement ce que je fais chaque matin, les protocoles sur lesquels je m'appuie pour être plus productif chaque jour, eh bien il vous suffit de cliquer sur le dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes et de me dire sur quelle adresse mail vous souhaitez que je vous envoie la vidéo. Je vous laisse maintenant avec votre épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet plus que capital selon moi, à savoir la réappropriation de vos capacités de concentration. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que d'ici la fin de ce podcast, vous aurez une compréhension beaucoup plus fine, beaucoup plus précise, beaucoup plus claire des mécanismes qui sont en jeu, au niveau cérébral notamment et au niveau chimique, lorsque l'on parle de concentration, et comment ces mécanismes sont détournés aujourd'hui pour voler votre attention au quotidien. Évidemment, je vous fournirai d'ici la fin de l'épisode des stratégies concrètes pour vous réapproprier votre concentration, et pour ainsi non pas travailler plus durement au quotidien, bien évidemment, mais pour justement travailler plus efficacement, pour accomplir en seulement quelques heures ce que vous accomplissez vous aujourd'hui potentiellement en plusieurs jours. Donc concrètement, si vous vous retrouvez dans la situation que je vais vous décrire, cet épisode est fait pour vous. Les leviers, les outils et les stratégies que je vais vous partager vont véritablement vous aider. Quelle est donc cette situation ? C'est le fait que vous commencez à travailler sur un dossier par exemple, et que d'un coup votre téléphone se met à sonner. Naturellement, vous prenez le téléphone pour voir le message en question. Et là, au même moment, une notification d'Instagram survient. Donc là, automatiquement et inconsciemment quasiment, vous allez sur Instagram. Vous commencez à scroller les photos et hop, nouvelle notification, cette fois-ci par exemple de WhatsApp. Et là, vous allez sur WhatsApp. Et plusieurs minutes passent comme cela à faire des allers-retours entre plusieurs applications. Et d'un coup, celle déclic. Vous reprenez conscience de votre propre comportement. Et vous vous rappelez que, initialement, la chose la plus importante à faire, ce n'est pas de prendre votre téléphone, ce n'est pas de scroller sur les réseaux sociaux, mais c'est de finir ce dossier. Et vous avez perdu là, potentiellement, 5, 10, 15 minutes. Et encore, on est sur du temps qui est effectif ici. Cela fait fi du temps nécessaire pour votre cerveau pour se replonger dans la tâche qui était en cours auparavant. Donc encore une fois, si cette situation vous est familière, l'épisode devrait vous intéresser et vous aider. Et si jamais vous me découvrez aujourd'hui par ce podcast précis, sachez que je m'appelle Jérémy Coron et que je suis notamment le créateur de la méthode neuroproductivité. Une approche de la productivité qui utilise des leviers et des stratégies issues des neurosciences pour augmenter vos niveaux d'énergie, de concentration et de motivation. Également, je suis auteur du livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif » disponible aux éditions Erol, ainsi que sur Amazon évidemment, à la Fnac ou dans toutes les bonnes librairies. Et avant réellement d'attaquer cet épisode, je tiens aussi à rappeler aux personnes qui ne sont pas encore inscrites que vous pouvez télécharger dès à présent une fiche action et une fiche résumée de tous les propos que je vais tenir dans ce podcast. Fiche sur laquelle, encore une fois, vous aurez une synthèse des stratégies développées. Et fiche qui vous donne également accès à un forum privé, composé de différentes sections, où vous pourrez me poser vos questions, partager des ressources ou échanger avec les différents membres qui justement ont fait le choix d'aller plus loin en téléchargeant ces fiches en question. Ok, maintenant, avant de rentrer en détail dans la chimie du cerveau, en lien avec la concentration bien évidemment, voyons quelle est l'origine du problème. Pourquoi aujourd'hui avons-nous du mal à rester concentré ? Il y a deux raisons qui peuvent expliquer cela. Le premier élément qui est intéressant à comprendre, c'est ce que Robert Colville appelle la grande accélération. Autrement dit, c'est l'accélération de la vitesse à laquelle nous recevons des informations. Et en fait, Internet a considérablement accéléré la vitesse de transmission des informations à travers le monde. Là où avant, une information mettait plusieurs jours potentiellement pour nous parvenir, aujourd'hui, elle met simplement quelques petites secondes. Et ce phénomène d'accélération a été renforcé par les modes de transmission également des informations. En effet, de par le passé, nous n'avions à disposition que les journaux. Après, c'est greffé la radio, la télévision et actuellement, nous avons le téléphone portable et Internet via les ordinateurs qui offrent une plus grande accessibilité des informations. Donc, d'une part, les informations se sont accélérées en termes de vitesse de transmission et d'autre part, les canaux par lesquels nous pouvons accéder aux informations se sont multipliés. Et le problème, c'est que notre cerveau n'est pas câblé pour recevoir autant d'informations. Et les recherches en neurosciences et en sciences cognitives montrent et démontrent qu'il ne le sera potentiellement jamais. En effet, nos capacités de concentration n'ont pas réellement évolué depuis les 40 000 dernières années, au même titre que nos capacités dites cognitives. D'où le titre de mon livre, encore une fois, « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif, il est programmé pour la survie ». Donc, peu importe les efforts que nous pourrions faire à l'avenir, on ne pourra jamais absorber toute la quantité d'informations qui nous parvient au quotidien. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons du mal à rester concentrés. Car notre cerveau, certes, n'est pas câblé, n'est pas programmé, n'est pas fait pour recevoir autant d'informations. Pour autant, notre cerveau est programmé pour aller chercher de l'information. Pour quelle raison ? Car au niveau évolutif, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, le cerveau humain est programmé pour la survie. Et qu'est-ce que l'information ? Ce sont des moyens d'augmenter directement nos chances de survie. En effet, savoir à la préhistoire où se trouve un troupeau, où se trouve potentiellement une grotte, où se trouvent potentiellement des baies, des fleurs, des fruits, des noix, etc., était tout un tas d'indices extrêmement importants que le cerveau voulait capter, voulait avoir, voulait percevoir pour augmenter son panel de solutions pour survivre. Donc aujourd'hui, on a un cerveau qui veut capter toutes les informations, mais qui ne le peut pas, tant la recrudescence des sources d'informations et la rapidité des informations se sont démultipliées et accélérées. Ok, ce problème, il n'est pas seul. Il est accompagné d'un autre problème, qui est le fait que l'interface actuelle des réseaux sociaux et des applications d'informations également ont été pensées et créées par des neuroscientifiques et par des experts en neuromarketing pour nous rendre accros à leur utilisation. Et là, si jamais vous souhaitez aller plus loin par rapport à ce sujet-là, je vous invite à lire véritablement le livre de Nir Eyal qui s'appelle Hook, donc H-O-O-K. En effet, ces plateformes-là ont été créées pour stimuler notamment la production de neurotransmetteurs bien précis, qui sont justement les mêmes neurotransmetteurs qui sont en jeu lorsque notre cerveau fait preuve de concentration. Donc, ils viennent directement appuyer sur les mêmes circuits neuronaux que notre cerveau utiliserait en temps normal pour maintenir notre attention sur une tâche donnée. Mais eux détournent ces circuits-là pour maintenir notre attention sur un téléphone, sur une application, sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter. Autrement dit, les applications et réseaux sociaux jouent avec les règles chimiques de notre cerveau, mais pas pour nous, mais contre nous. C'est la raison pour laquelle il est si facile d'être hypnotisé par ces réseaux-là et d'y perdre des heures par jour également. En effet, il est important de comprendre que la concentration est ni plus ni moins que le résultat d'une production chimique bien spécifique dans votre cerveau. Elle ne sort pas de nulle part, elle n'est pas produite ex nihilo, mais véritablement c'est la conséquence notamment de la production de trois neurotransmetteurs bien précis et de l'interaction entre ces trois neurotransmetteurs en question. Alors, rappel rapide, qu'est-ce qu'un neurotransmetteur si jamais vous me découvrez depuis peu de temps ? Simplement, on va dire que c'est le service postal de votre cerveau. Votre cerveau pour communiquer simplement entre les neurones, donc pour induire des faits, des gestes, des actions et des pensées, utilise des petites enveloppes pour induire un message d'un neurone à un autre. Ces enveloppes, ce sont nos neurotransmetteurs. Imaginons que le neurone A veuille communiquer un message au neurone B, vu que ces derniers ne se touchent pas physiquement parlant, ils vont envoyer un petit courrier par le biais de neurotransmetteurs, ça peut être la dopamine, l'acétylcholine, le GABA, etc., pour justement envoyer l'information en question. Et donc là, quand on parle de concentration, il y a trois neurotransmetteurs qui vont particulièrement nous intéresser, à savoir la dopamine, l'acétylcholine et l'adrénaline. On va commencer par la dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est ? C'est le neurotransmetteur de la mise en mouvement et de la motivation également à obtenir une ressource que nous ne possédons pas et qui pourrait augmenter nos chances de survie. Alors, précision importante, qu'est-ce que j'entends par ressource ? Une ressource, comme dit précédemment, c'est tout ce qui peut augmenter nos chances de survie. Ça peut être par exemple plus d'argent, plus de temps, plus de relations, car qui dit relation dit un réseau plus important qui peut nous aider à résoudre des problèmes. Ça peut être également plus de nourriture. Donc dès lors qu'une ressource que nous n'avons pas est accessible, dès lors que nous pouvons espérer l'obtenir, une production de dopamine va se mettre en place au niveau du cerveau pour nous mettre en mouvement pour l'obtenir. Ok, donc ça c'est pour la dopamine. Ensuite nous avons l'acétylcholine. Acétylcholine qui, elle, est impliquée directement dans plusieurs processus, notamment au niveau de la mémorisation, de la motivation, de l'excitation et évidemment, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des mécanismes attentionnels. Et en fait, le rôle dans la synergie au niveau des trois neurotransmetteurs dont je viens de parler, donc le rôle de l'acétylcholine, le KLS, c'est le fait simplement de canaliser l'énergie apportée par l'adrénaline, dont on parlera juste après. Donc de la canaliser vers un point précis, vers une cible précise, vers un objectif précis. Sinon, l'énergie apportée par l'adrénaline serait tellement, on va dire, libre que nous ne serions pas focalisés sur une tâche, mais sur une multitude de tâches, ce qui serait contre-productif. Et donc, maintenant, parlons de l'adrénaline pour terminer. Là, c'est tout simplement le neurotransmetteur, l'hormone, qui vient doper nos niveaux d'énergie et de vigilance. Et réellement, du coup, c'est l'interaction entre la dopamine, l'acétylcholine et l'adrénaline qui crée la motivation, qui permet sa survenue. Avec une adrénaline qui crée l'état nécessaire de vigilance, l'acétylcholine qui vient directement canaliser l'énergie apportée par l'adrénaline et la dopamine qui maintient l'élan et qui permet de faire le premier pas. Autrement dit, la concentration, c'est exactement comme la musculation, on va dire. Quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Ça, c'est une phrase que je reprends très souvent de Frédéric Delavier, un expert notamment en morpho-anatomie. Appliqué à la musculation, qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, une personne qui a des très grandes jambes, elle aura beau vouloir charger très lourd sur du squat, elle sera toujours moins efficace qu'une personne qui a des jambes courtes. Pour quelle raison ? Car la personne qui a des jambes courtes aura moins de trajet à faire. Donc l'effort à déployer pour soulever une même charge sera inférieur pour une personne qui a des jambes courtes versus une personne qui a des jambes longues. Pareil pour le basket. Une personne qui est de petite taille aura beau vouloir dunker, elle ne le pourra pas. Donc pour la concentration, c'est exactement la même chose. Quand on veut, on peut. Donc quand on veut être concentré, on peut être concentré. Sauf si les trois neurotransmetteurs dont je viens de parler sont soit entre guillemets inexistant, soit produit en quantité insuffisante pour permettre une concentration longue et durable dans le temps. Maintenant, pour simplifier un peu les choses et pour réellement rendre visuelle l'interaction entre ces trois neurotransmetteurs, j'aime bien reprendre l'image donnée par Andrew Huberman, un neuroscientifique et professeur à l'université de Stanford, qui prend l'image de la flèche de la concentration, où l'acétylcholine joue le rôle de pointe de la flèche. En fait, elle vient définir directement cette pointe, la direction de la concentration. Elle vient tout simplement agir comme étant, on va dire, un projecteur qui met en lumière des neurones spécifiques devant être actifs pour exécuter une tâche spécifique. Donc, c'est elle qui va jouer le rôle de précision par rapport à la concentration et par rapport aux actions que l'on souhaite mener pour atteindre un but. Après, nous avons l'adrénaline, qui, elle, représente la tige de la flèche. Encore une fois, selon le modèle d'Andrew Huberman, que je présente pour information également dans mon livre. Cette tige, elle permet tout simplement de fournir l'énergie pour la concentration. C'est elle qui vient amener la vélocité de la flèche, sa stabilité également. Et enfin, nous avons la dopamine qui, elle, tient le rôle de propulseur. Les petites plumes derrière la flèche, c'est tout simplement la dopamine. C'est elle qui fournit une énergie en continu pour exécuter une tâche précise sans être sujet à la distraction. Ok, donc là vous avez déjà une connaissance plus précise de ce qu'est la concentration et de ce qui se passe dans votre cerveau quand vous cherchez à être concentré que bien 99% des personnes. Mais à nouveau, il y a un problème. Le problème qu'est le fait que les réseaux sociaux utilisent exactement l'activation des mêmes neurotransmetteurs pour vous rendre accro à leur utilisation. Et notamment, ils mettent l'emphase sur l'activation de deux neurotransmetteurs spécifiques parmi les trois que je viens de citer. À savoir la dopamine, qui réagit particulièrement bien à la nouveauté et au hasard. Et du coup, que trouve-t-on sur une application type TikTok, type Instagram, type Facebook dès lors que l'on va l'ouvrir ? Eh bien, de la nouveauté et du hasard. À chaque fois que l'on défile sur ce type d'application-là, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Donc ça stimule la production de dopamine. Ce qui fait que l'on va avoir une motivation à poursuivre le temps passé sur l'application pour sans cesse avoir des nouveautés. Et l'autre neurotransmetteur sur lequel jouent ces applications, c'est l'adrénaline, avec notamment le mécanisme de FOMO. FOMO pour Fear of Missing Out. J'ai peur de louper une information en n'allant pas sur les réseaux sociaux. Et du coup, cette peur, notamment, est médiée par une production accrue d'adrénaline. Donc, en ayant peur de ne pas connaître l'information, on va davantage aller la chercher. D'ailleurs, au niveau évolutif, parenthèse rapide, d'où vient cette peur ? Elle vient du fait qu'une information qui n'est pas connue, comme j'ai pu le dire précédemment, est une information potentiellement qui risque de nous échapper, et donc potentiellement qui risque de diminuer nos chances de survie par une non-connaissance des ressources disponibles à proximité que l'on pourrait obtenir. Ok. Maintenant, on va rentrer dans le détail des leviers à activer pour justement stimuler la production de ces trois neurotransmetteurs-là pour induire à votre niveau, sur demande, un état intense de concentration. Mais avant ça, si vous souhaitez aller plus loin et notamment visualiser cet outil qui est la flèche de la concentration, sachez que j'ai créé un atelier 100% gratuit dans lequel je partage tout simplement cet outil plus en détail avec des méthodes complémentaires pour augmenter votre concentration. Le lien étant en description, bien évidemment. Donc maintenant, voyons les trois stratégies qui vont vous être, je pense, très utiles au quotidien pour augmenter vos neurotransmetteurs de la concentration. Et simplement, je vous propose de voir une stratégie par neurotransmetteur. Le premier, ça va être la dopamine. Donc, la dopamine, rappelez-vous, est produite en anticipation d'une augmentation de nos ressources disponibles. C'est la raison pour laquelle une astuce toute bête mais qui fonctionne très bien pour augmenter ses capacités de concentration, c'est le fait de prévoir une récompense à la fin de l'exécution d'une tâche. Une récompense qui va être connue. Car simplement en connaissant la récompense qui vous attend, ça peut être une pause, un café qui vous plaît, potentiellement ça peut être l'écoute d'une musique, une partie de jeu, etc., de la lecture et j'en passe, eh bien votre cerveau voudra obtenir cette récompense le plus rapidement et le plus efficacement possible. Pour ce faire, il va augmenter votre production de dopamine en lien avec la tâche à exécuter pour obtenir la récompense. Autrement dit, la dopamine qui jusqu'à présent était grosso modo réservée à l'application sur votre téléphone sera détournée pour exécuter une tâche donnée pour obtenir une récompense qui découlera de l'exécution de cette tâche en question. Donc ça, c'est pour la dopamine. On vient prévoir une récompense après l'exécution d'une tâche. Et après, nous avons l'adrénaline. Et là, je pense que je vais vous surprendre. Car une très bonne stratégie pour augmenter vos niveaux d'adrénaline, c'est de faire du multitâche. Mais pas du multitâche, on va dire au sens classique du terme, à savoir aller directement d'un dossier à un autre, je sais pas, d'un projet à un autre et j'en passe. Ça ne fonctionne pas. En effet, d'ailleurs, aparté aussi rapide, encore une fois, le terme de multitâche a été inventé initialement et originellement pour les ordinateurs qui possédaient deux cœurs. Alors je ne pense pas que vous possédiez, vous, deux cerveaux. En aucun cas, le terme de multitâche a eu vocation à sa création d'être appliqué à l'être humain, mais uniquement aux machines. Donc moi, le multitâche que je vous recommande de faire n'est pas celui-ci encore une fois, mais c'est à l'inverse, de faire tout simplement d'autres tâches avant votre travail. Par exemple, je pense que vous l'avez remarqué par vous-même, il est courant de ranger son bureau avant de se lancer sur une tâche particulière. Pareil, moi qui travaille à domicile, il peut être courant à mon niveau, potentiellement de ranger la vaisselle, etc. En fait, en venant nettoyer son environnement de travail, on vient induire une production, aussi surprenant cela puisse paraître, d'adrénaline. Pour quelle raison ? On va se diriger du côté des chiens pour le comprendre. Que fait un chien avant de se coucher ? Il tourne sur lui-même, puis se couche. Que fait également un chien souvent avant de manger ? Il tourne sur lui-même, puis mange. Pourquoi fait-il cela ? En fait, ça, c'est un comportement hérité du passé dans lequel les chiens étaient tout simplement en proie à des prédateurs. Et le fait de dormir, le fait de manger, tout simplement augmentait le risque qu'il se fasse surprendre par un prédateur. Donc dès lors que le chien voulait entreprendre une action qui le mettait en risque, il tournait sur lui-même pour scanner son environnement, avec efficacité, avec concentration. Ce qui induisait du coup une production d'adrénaline nécessaire à ce scan efficace. Puis après une fois l'environnement analysé, ils pouvaient soit dormir, soit manger. Et les chiens actuels, malgré le confort et la sécurité dans lesquels ils baignent, ont conservé cet héritage évolutif. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Autrement dit, en nettoyant notre environnement, on vient simplement s'assurer, au niveau cognitif, qu'il n'y a pas de danger. Et pour faire, on va dire, ce scan-là efficacement, à l'image des chiens, le cerveau augmente la production d'adrénaline. Donc, ranger son bureau, nettoyer un peu, etc. avant d'exécuter une tâche, peut être une très bonne stratégie pour augmenter ses niveaux de concentration. Et enfin, pour l'acétylcholine, on va passer par un moyen qui est détourné, à savoir la méditation. Et là, je vais faire écho directement aux travaux menés par Wendy Suzuki, qui a montré que méditer pendant seulement 13 minutes pendant 8 semaines augmente drastiquement les capacités de focalisation au quotidien. Par quel mécanisme ? Simplement par l'augmentation de la sérotonine induite par la méditation. La sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur qui joue un rôle très important dans la régulation de l'humeur, par exemple, et également qui a un effet antidépresseur. En effet, et ça c'est vraiment connu au niveau médical notamment, beaucoup d'antidépresseurs fonctionnent aujourd'hui sur tout simplement le fait d'empêcher l'organisme de recapturer la sérotonine circulante. Et donc en laissant davantage de sérotonine libre dans l'organisme, un effet antidépresseur se met en place, notamment induit par le caractère justement déstresseur de la sérotonine. Et surtout la sérotonine, pour ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, va avoir un effet sur la stimulation de l'activité cérébrale qui elle-même peut stimuler la production d'acétylcholine. Donc c'est un moyen qui est détourné encore une fois, mais qui reste néanmoins efficace. Après, je sais que la méditation peut être compliquée à aborder. Donc il y a d'autres stratégies évidemment qui permettent d'avoir les mêmes résultats avec, entre guillemets, moins d'implication. Même si le plus intéressant, le plus important à respecter, et ça c'est une maxime à constamment avoir à l'esprit, c'est que le résultat ne doit jamais passer par l'économie de l'effort. Donc la seconde stratégie que je vais vous partager certes est plus simple, mais au final, apprendre à méditer apporte davantage de bénéfices que simplement augmenter sa concentration. Donc je pense sincèrement que la meilleure solution à long terme reste la méditation. Mais du coup, quelle est donc cette autre solution beaucoup plus simple ? C'est le fait de visualiser un point sur un mur. En effet, en visualisant un point sur un mur, vous allez activer ce qu'on appelle le phénomène de vergence. La vergence, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que vos yeux sont directement focalisés, en mode effet tunnel, on va dire, sur un point précis en ignorant tout le reste. Et ça vient notamment induire une production d'acétylcholine, certes, mais surtout d'adrénaline dont on a parlé précédemment. Il suffit pour obtenir les premiers bénéfices de cette pratique-là que de tenir durant 30 secondes au début sur un point précis, sans, évidemment, quitter ce point-là. Et après, votre objectif sera constamment d'augmenter la durée de visualisation, car le corps humain est une machine à s'habituer et à s'adapter à des comportements inconfortables pour lui. Donc si vous vous contentez, vous, au quotidien, de fixer un point avant de travailler pendant 30 secondes, au bout de quelques semaines, il n'y aura plus d'effet en termes de production de neurotransmetteurs. Ou du moins, les effets seront moins marqués et poussés. Voilà pour les trois stratégies dont je voulais vous parler. Récapitulons rapidement. La première, pour la dopamine, prévoir une récompense à la fin de l'exécution de la tâche. La deuxième, pour l'adrénaline, faire un peu de multitâche avant de passer sur son travail principal. Et la troisième, pour l'acétylcholine, idéalement, c'est pratiquer une session de méditation tous les jours. Essayez, encore une fois, si on s'appuie sur les travaux de Wendy Suzuki, de méditer seulement 13 minutes pendant 8 semaines tous les jours. C'est pas si énorme que ça, et notez sur un cahier, il est très important de prendre des notes, de documenter ce que l'on fait, les effets qu'a cette méditation sur votre productivité au quotidien. Maintenant, certes, ces trois outils sont très puissants, mais pour réellement en tirer pleinement bénéfice, il faut qu'ils s'inscrivent dans un tout, et notamment dans une routine précise, car là, ils sont simplement isolés. En effet, adopter une routine de concentration revêt notamment deux avantages principaux. Le premier avantage, c'est le fait de vous donner un guide clé en main. L'avantage d'une routine, c'est comme une recette de cuisine. On n'a qu'à suivre bêtement chacune des étapes pour obtenir un résultat voulu. Donc en suivant simplement des étapes clés en main, dont font partie évidemment les trois stratégies dont je viens de parler, vous aurez à la fin de la routine, provoquer dans votre organisme, et dans votre cerveau plus précisément, l'état de concentration recherché sans vous poser de questions au préalable. Ensuite, deuxième bénéfice d'une routine, c'est le fait qu'une routine permet tout simplement de jouer sur le côté anticipatif du cerveau humain. En effet, rappelez-vous, j'en ai parlé brièvement précédemment, la dopamine est produite, pour prendre l'exemple précis de la dopamine, en anticipation d'une augmentation potentielle de nos ressources disponibles. Et ça, ça fait écho directement aux travaux de Carl Friston, qui a mis en évidence le fait que le cerveau n'est pas un organe de réaction, mais d'anticipation. Autrement dit, il va constamment chercher à anticiper les conséquences, positives comme négatives, de chacune de ses actions. Donc, en ayant une routine, vous allez directement vous induire le schéma de pensée suivant. Le fait que commencer la routine, le fait que me lancer dans ma routine, rien que le fait d'y penser d'ailleurs, doit se traduire, doit se conclure, doit se terminer par un état de concentration. Donc dès lors, vous allez programmer votre cerveau à être dans les meilleures dispositions possibles pour accueillir chacune des actions que vous allez entreprendre durant votre routine pour augmenter vos capacités d'attention. Et à part rapide par rapport à cette notion justement de cerveau anticipatif, quand on comprend ça, on comprend le schéma des ruminations nocturnes. En effet, les personnes qui se réveillent la nuit et qui pensent à leur travail, qui pensent à des actions, qui pensent à des choses à faire, eh bien simplement sont victimes de ce cerveau anticipatif. Et c'est la raison pour laquelle une très bonne stratégie que je recommande aux personnes que j'accompagne, c'est de noter sur un cahier toutes les pensées qui leur passent par la tête, tant personnelles que professionnelles. Mais de ne surtout pas s'arrêter là, car là on a fait la moitié du travail. L'autre moitié consiste tout simplement à noter la première action à entreprendre pour justement corriger un problème, pour justement faire l'action qui nous passe par l'esprit, pour justement atteindre un résultat que l'on a noté. Car simplement en mettant l'action numéro 1 à entreprendre, la plus simple possible, la plus basique possible, on vient induire le bon schéma de pensée au niveau du cerveau. Donc il n'aura plus besoin d'être constamment dans l'anticipation, dans la prévision des éventualités qui s'offrent à lui. Car on aura commencé dès à présent à le mettre sur le « entre guillemets bon chemin ». Et enfin, pour conclure cet épisode, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est que je ne vous ai présenté que des outils dits comportementaux. Outils comportementaux qui sont, selon moi, selon mon expérience et selon de nombreuses études, supérieurs aux outils dits médicamenteux. Typiquement, le fait de prendre des nootropiques, donc des smart drugs. D'ailleurs, aparté encore une fois, le terme de smart drug n'a aucun sens. Aucune drogue ne rend plus intelligent. Elle augmente des facultés en particulier, mais ne rend pas intelligent. Pareil le fait, par exemple, de prendre des champignons spécifiques, du lion's mane, de la psilocybine. Tout ça est intéressant, certes. Mais ça n'apporte pas autant de bénéfices que les outils comportementaux. Pour quelle raison? Car un outil comportemental vient induire, par sa répétition, un changement structurel au niveau de votre cerveau, par le phénomène de plasticité cérébrale. Là où simplement la prise d'un médicament, d'un nootropique ou autre, n'induit pas cet élément-là. Pourquoi? Parce que la contrainte de faire des actions va pousser votre cerveau à s'habituer et donc à réagir. Et rappelez-vous, on en a parlé précédemment, il ne faut jamais se faire l'économie de l'effort pour obtenir un résultat. Car c'est par l'effort que passe le remodelage du cerveau et donc le développement de compétences, non pas à court terme, mais bel et bien dans la durée. Et enfin, dernier élément, c'est l'importance du repos. Plus vous allez apprendre à être concentré efficacement, plus vous allez vous épuiser rapidement. Exactement à l'image de la lumière versus un laser. C'est exactement pareil. Les piles d'un laser tiennent beaucoup moins que des piles d'une lumière. Pourquoi? Parce que l'énergie est concentrée. Donc si vous n'observez pas, après un travail intense, potentiellement d'une heure et demie à deux heures, sans distraction, sans déconcentration, une phase de repos, vous allez littéralement vous épuiser et donc amenuiser à terme vos capacités de concentration. Comment se repose-t-on? Donc là, ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais je vais vous donner deux pistes pour conclure l'épisode. Première stratégie intéressante, c'est de faire l'inverse de ce que j'ai évoqué précédemment, à savoir l'inverse de la vergence, qui est le mécanisme de magnocellulaire. Donc la vergence, rappelez-vous-en, c'est le fait de concentrer votre regard sur un point précis. La magnocellulaire, à l'inverse, c'est le fait d'élargir votre champ de vision. Et ça, en fait, le fait notamment d'aller marcher à l'extérieur pour voir l'environnement, qui va induire ce mécanisme de magnocellulaire, vient directement reposer votre cerveau, ainsi que recharger vos batteries de la concentration, façon de parler. Et l'autre solution que j'aime pratiquer personnellement et que je pratique quasi quotidiennement, c'est le NSDR. NSDR pour Non Sleep Deep Rest, autrement dit un repos profond sans sommeil. C'est une méthode qui a été popularisée récemment et qui découle directement en fait du yoga nidra qu'elle a actualisé en quelque sorte. Il s'agit en fait de faire un scan corporel, allongé ou assis, de chacune des parties de son corps, ce qui permet, je fais un grand raccourci, j'en ai conscience, car l'épisode n'est pas dédié à ce sujet-là, mais ce qui permet simplement en fait de remettre à zéro, entre guillemets, la chimie de son cerveau, donc les neurotransmetteurs dont on a parlé précédemment. Si jamais cela peut vous intéresser, tapez séance français NSDR sur internet et vous aurez des séances clés en main avec un guidage à suivre pour tester par vous-même cette pratique. Et nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Pour conclure, rappelez-vous que vous avez directement accès soit à la fiche résumée qui ouvre droit au forum privé, soit à l'atelier gratuit sur la concentration. Également, comme à mon habitude, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez vous transmettre avec vos mots, avec votre vocabulaire, avec votre pratique, avec votre expérience, ce que vous avez retenu de cet épisode en question, à des enfants, aux vôtres ou à ceux des autres. Car avec l'accélération constante et exponentielle des technologies, autant dire qu'un enfant qui est doté de bonnes capacités de concentration aura beaucoup plus, entre guillemets, de possibilités, de chances et aura un avantage par rapport aux autres, tant au niveau éducatif qu'au niveau professionnel à l'avenir. Et les enfants qui, à l'inverse, ne bénéficieront pas de ces éléments-là seront, entre guillemets, condamnés malheureusement à une vie automatique guidée par les pulsions induites par les réseaux sociaux. Et ce n'est personnellement pas de ce monde-là que je veux pour mes enfants. Donc c'est à notre petite échelle, on peut contribuer à l'aide de ces enfants-là, en leur faisant comprendre comment ça fonctionne au niveau de leur cerveau et quel comportement adopter pour gagner en concentration. Mon travail sera fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.